La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Prenons la Bible ensemble dans Luc 1, versets 46 à 49. Luc 1, versets 46 à 49. Marie dit : Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi, son nom est saint. Amen.
Bien, bonjour à chacun, bonjour à ceux qui nous visitent aussi ce matin. Journée un peu particulière, jour de fête, c'est vrai, où les familles ont choisi de se rencontrer pour vivre un moment de fraternité, un moment de retrouvailles. Que tous ceux qui nous visitent en ce matin pour ce moment de partage se sentent à l'aise et qui se laissent visiter par le Saint-Esprit afin que nous soyons porteurs de lumière. Ce matin, Alicia et moi, à travers le texte qui a été lu par Jonathan, nous voulons avoir deux regards distincts, c'est vrai, et vous inviter à parcourir avec nous la vie, c'est vrai, de Marie, de Joseph, mais aussi, bien sûr, de son fils. Je commencerai par à parler de ce couple, un couple particulier. On présente tout d'abord Marie comme une fille sérieuse, intègre, une fille pieuse. Et comme le dit le texte, elle trouve grâce auprès de Dieu qui lui confie son fils unique. Présenté comme un couple simple, c'est vrai, ce qu'il y a de plus ordinaire, issu de cette classe pauvre, en apparence, la voilà propulsée devant la scène locale, planétaire certes et aussi cosmique. Lui, Joseph, homme décrit comme quelqu'un, comme pieux aussi, juste, protecteur, discret, qui malgré les circonstances ne se laisse pas emporter par aucune colère. Lui, Joseph, c'est la force tranquille, la sérénité, là où peut-être beaucoup d'hommes auraient craché leur venin de la déception. À la réflexion de ce qui lui est annoncé, cet homme reste troublé. Comment cela se peut-il? Il comprend qu'à cet instant, tout est fini. Plus d'ambition, plus de projet. Comment comprendre et accepter que sa bien-aimée soit porteuse de cet enfant qui n'est pas le sien? Il ne l'a encore point connu. Pas de relation sexuelle. Fidèle à lui-même, il a décidé de mettre un terme à cette situation en ayant comme priorité de protéger celle qu'il aime dans le seul but de lui éviter, de toute évidence, la honte, la lapidation. Le récit précise qu'il ne voulait pas la diffamer. Ce n'est pas le genre dans la maison. Alors qu'il méditait sur son plan, un ange de Dieu lui apparut en songe, l'a rassuré, lui a redonné espoir, confiance. Ne t'inquiète pas, Marie, c'est une personne, elle est bien. Écoute-moi, je vais t'expliquer, lui dit l'ange. Joseph se réveille, fait comme l'ange lui dit, Et la question qu'on peut se poser ce matin, quel couple ne connaissant pas Dieu peut accepter une pareille situation? Quel couple connaissant Dieu peut accepter une chose pareille? On voit ici que tous les ingrédients d'une séparation sont réunis, et bien sûr à n'importe quel moment, comme vous le savez, ce couple peut exploser. Alors qu'ils préparaient leur envol, Dieu fait appel à eux. Ce couple est à la hauteur de ce qu'ils sont. Écoute, obéissance, confiance à Dieu. Voilà comment, d'un coup d'un seul, Dieu s'invite chez vous, débarque dans votre vie, que vous soyez seul ou accompagné. Quelle que soit votre situation, il chamboule tous vos projets, prend tout le monde par surprise, d'autres diront à contre-pied. Il le fait pour nous aussi, certes, différemment que Marie et Joseph, mais il le fait. Le couple connaît celui qui fait irruption dans leur vie. Ils connaissent cette histoire. Ils ont entendu parler de ce germe qui doit venir. La force de ce couple réside dans l'amour qu'ils ont bien sûr l'un pour l'autre et la confiance qu'ils ont mis à l'annonce de ce que l'ange leur avait dit. Dans une complicité partagée, comprenant alors que Dieu les a appelés pour un service spécial, c'est vrai, porter et enseigner celui qui sauvera le monde de ses péchés. Dieu a besoin de nous. Il a aussi un plan à partager avec nous. Que lui répond-on? Concernant l'éducation de Jésus, nous n'avons pas, la Bible ne nous donne pas beaucoup d'informations à ce sujet. Mais si nous faisons un effort d'imaginer Jésus enfant, peut-être pour nous ça ne devrait pas être trop compliqué. Ses camarades, son espace de jeu, les jeux qu'il utilisait, qu'il prêtait ou qu'il se prêtait. Bien sûr, la comparaison n'est peut-être pas juste, elle n'est pas juste du tout au regard de ce que nos enfants vivent aujourd'hui. Néanmoins, la Bible nous donne quelques informations, quelques pistes en lisant le texte de Luc chapitre 2, les versets 40 à 42. Luc chapitre 2, les versets 40 à 42. Voici ce qu'il est dit. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques, et je continue au verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Je reprends le verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Oui, 3 jours de doute, 3 jours de peur, 3 jours d'angoisse. Leur enfant perdu, égaré, parmi cette population, leurs recherches aboutissent. Et là, ils le trouvent dans le temple, écoutant et interrogeant les docteurs de la loi, stupéfaits devant la réponse de ce jeune garçon. Quel enfant ayant 12 ans porte un grand intérêt aux affaires de son père? Lui, Jésus, il sait pourquoi il est là. Il est à sa place. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Déjà conscient de la tâche qui lui incombe, il se met à l'œuvre. À un âge où un enfant peut et sait faire la différence. Non, nul n'est trop petit à cet âge pour s'intéresser aux affaires de son père. Marie, c'est aussi une femme de foi et aussi disciple. Le passé a transformé Marie, femme de terrain, confrontée aux multiples problèmes de la foi. Et la foi de Marie grandit et se développe. La venue de l'ange chez Marie est une orchestration de Dieu. Elle remplit toutes les qualités que Dieu recherche pour cette œuvre de portée cosmique. L'arrivée de cet ange chez elle ne lui fait pas plus peur que ça. Elle ne prend pas la fuite. La peur ne l'envahit pas. Ses genoux ne montrent pas de signe de faiblesse. Verset 29. Et Marie, elle est juste troublée par cette parole qu'elle venait d'entendre. Après toutes ces infos, elle est rassurée, elle accepte par la foi, sans autre, et se soumet à la volonté de Dieu. Verset 38. Au contact du terrain des disciples, son fils, elle vit des choses à l'intérieur. Comment être mère et apprendre à être disciple? Quelle est la place de la femme dans ce machisme aigu? Fût-elle la mère de Jésus, elle n'a aucun privilège. Cette mission, Marie l'accepte sans calculer, sans compromis. Un acte plein de foi, plein d'amour, image banalement classique d'une femme qui attend un enfant, si ce n'est celui qui sauvera le monde de ses péchés. Pourquoi Marie et pas une autre? Dieu venait à nous, si Dieu venait à nous visiter, quelle serait notre réponse? Serait-elle comme celle de Marie, soumission et confiance à Dieu? Si on y réfléchit franchement, votre vie et ma vie est-elle bien à la disposition de Dieu? Marie l'a comprise, troublée, mais elle accepte. Oui, c'est vrai, à la suite de ce que je dis, on sent peut-être venir cette question ce matin. Eh bien, tant mieux. Dieu est-il vraiment le Seigneur de ma vie et le centre de ma foi? Et Marie pourrait avoir plein d'excuses. Je n'ai jamais eu d'enfant. Je suis fiancée. Il faut en parler à Joseph de cette affaire. Et bientôt, je veux me marier, j'ai des projets. Femme de foi, certes, mais aussi une femme disciple qui obéit à son maître. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que l'on soit engagé, militant ou pas, la maison de Dieu est une priorité et savoir ce que nous en faisons de cette priorité. Dieu est-il prioritaire dans ma vie? Dieu est-il prioritaire de ma vie? Lorsqu'on parle de mère, lorsqu'on parle de parents, mais ici nous nous adressons directement aux mamans, qui mieux que Marie pouvait comprendre cette souffrance. Pour protéger son fils d'Hérode, Marie va fuir, sachant qu'elle est enceinte. Et on peut comprendre et imaginer cette situation de calvaire. Et bien plus tard, alors que Pilate se lave les mains devant la pression de la foule, qui scande de « Tuez-le !» À mort, vengeance, qu'il soit crucifié, crucifiez le Nazaréen. Marie est là, quelque part dans la foule, en furie, devant ce déchaînement de haine, de violence, on peut ressentir sa peur, son angoisse. Mais ses cris ne peuvent étouffer sa foi. Elle comprend alors que la vie de son enfant, son fils, prend un chemin qu'elle n'avait pas imaginé d'aussitôt. Mais ce passage dans la vie de Jésus, elle ne peut le gommer. Elle sait maintenant que son heure est venue. Maltraitée, injuriée, humiliée, raillée, prenant les crachats des uns et des autres, ce n'est plus ce petit enfant dans la crèche, ni celui qui à 12 ans tenait tête aux grands dans la synagogue. Marie subit cette croix qui s'impose à elle et ajoute à ses douleurs. Sur ce chemin de la mort, elle sait désormais que son enfant, son petit enfant, ce Jésus, est face à lui-même. Plus elle avance, plus grande encore est sa peine, douloureusement mais sûrement, arpentant le chemin qui mène au calvaire, sur celui de la volonté de son Père. Au lieu dit, les soldats s'appliquent à leur tâche. Oui, le voilà, le Tout-Puissant, le Prince de la Paix, le Roi des Rois. Il est là seul. Il ne peut se sauver lui-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends, on te croira. De tous les hommes qu'il a instruits, il n'en reste qu'un, celui que Jésus aimait et qui se couchait sur son sein. Seul homme parmi ces quatre femmes, Jean est au pied de la croix. Il pleure son Seigneur, son ami. Image étrange que nous offre ce tableau, à l'exception de Marie, de Magdala. Ce sont des mères de famille comme vous ce matin, certes, elles qui ont cette faculté, cette volonté de ne pas abandonner son enfant. Puisqu'un homme, une femme, une mère vit les choses, les drames avec ses entrailles. Elle vit les choses avec ses tripes. Elle qui a porté le fruit de ses entrailles. Oui, chers parents, chers amis, vous qui voyez, ou vous plutôt qui êtes mère, comment ne pas vivre ce moment, ce drame? On n'entre pas dans le mystère de la croix avec la tête, mais on rentre avec son cœur, de tout son cœur, avec ses entrailles. Et bien sûr, à bien y regarder, ceux qui restent au pied de leur croix sont ceux qui aiment de tout leur être, de toute leur force, de toute leur fibre. Oui, malgré la souffrance, Jésus perçoit en Marie sa mère et Jean une peine profonde. Avant de se remettre à son Père, puisant dans ses dernières forces, Jésus leur donne cet ultime message de réconfort. Un peu comme si dans cette souffrance, il donnait une nouvelle naissance, un nouveau départ, qu'un nouveau départ était possible et la consolation viendra malgré tout de ce fils souffrant. Oui, voyant cela, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. » Dans la souffrance extrême, Jésus ici introduit le réconfort et la consolation. Puis, il dit, « Tout est accompli, en baissant la tête, il rendit l'esprit. »
Bonjour à vous tous, et voilà un peu ce que je vois de Marie. Marie, en hébreu, se dit Myriam. Le prénom Myriam est une racine égyptienne, qui signifie celle qui est aimée. Et c'est pour cela que j'ai choisi cet anagramme, Marie, avec les lettres mélangées, devient aimée. Le verbe aimer à la première, au premier groupe, à l'infinitif. Nous sommes là aujourd'hui en cette période actuelle où le monde chrétien fête l'anniversaire de la naissance de Jésus. Mais si nous considérons cette nativité telle que la parole de Dieu nous la présente, nous pouvons constater que Jésus n'est pas né un 25 décembre, en tout cas pas en décembre. Peut-être au printemps, peut-être au début de l'automne. L'hiver n'est pas la période de la transhumance. Dans les champs, il n'y a pas de moutons et il n'y a pas de bergers, même dans un climat méditerranéen. D'autre part, la naissance de Jésus n'a rien à voir avec un sapin et puis les jolis cadeaux. La naissance de Jésus est un véritable don pour l'humanité, une délivrance, une libération. Elle nous rappelle la réalisation d'au moins une prophétie de l'Ancien Testament que je vous invite à lire, Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Jeune fille, Marie l'était. À cette époque, les filles étaient fiancées vers l'âge de 12 ans et une année après, elles devaient être mariées. Les hommes, eux, se fiançaient vers l'âge de 18 ans. Cela laisse à penser que Joseph était plus âgé que Marie d'environ 6 à 18 ans. En ce qui concerne le mariage et les coutumes juives, c'est le père de la mariée qui réglait les modalités avec le futur marié. Et pour ce qui nous concerne, le père de Marie, selon la tradition, s'appelait Joachim et il était de la lignée de David. Et sa mère s'appelait Anne. Dès le début, les évangiles nous disent clairement que Marie était fiancée à Joseph. Leur engagement était officiel. Le couple ne vivait pas ensemble, mais l'année suivante, le mariage devait avoir lieu. Les fiançailles étaient réellement engagées et à cette époque, lorsqu'il y avait de telles fiançailles, si l'homme décédait dans l'année d'avant le mariage, la femme était considérée comme veuve. La naissance de Jésus nous raconte aussi l'histoire de cette jeune fille qui semblait avoir un destin tout tracé. Mais nous ne savons rien, ni de ses ressentis, ni de ses états d'âme, ni même de ses projets. Cependant, c'est dans le grand questionnement d'une jeune fille de 12-13 ans que Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel qui, en quelques minutes, changera et transformera ses plans et sa vie. Luc, au chapitre 1er, à partir du verset 28, est très précis. L'ange entre chez Marie et lui dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Cette salutation nous montre que Marie n'est pas dépositaire de la grâce. Mais cette grâce est déversée sur elle, certainement, pour qu'elle puisse assumer toute la responsabilité qui lui sera demandée et qu'elle acceptera. Dans ce récit, Luc nous dit que Marie est troublée par ses salutations. Et comme l'a dit Laurent, elle ne semble pas apeurée par la présence de l'ange. Elle semble même calme, puisqu'elle réfléchit à la signification des paroles de l'ange. Un dialogue s'installe. L'ange réitère la grâce que Dieu lui accorde et lui annonce qu'elle aura un fils. Elle devra l'appeler Jésus. L'ange lui dit qu'il sera grand et qu'il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ceci, vous pouvez le lire dans Luc 1, 31 à 33. Ces paroles, Marie les a repassées dans son cœur. Et plus tard, lorsque Jésus a plus de 30 ans, se trouve entouré d'une foule immense, composée surtout de pauvres, de malades, d'indigents, Marie ne comprend pas. Elle pense vraiment que son fils a perdu la raison. Elle va le chercher. Elle veut qu'il revienne à la maison. Parce qu'elle pense que ce n'est pas comme cela qu'il deviendra un roi éternel et surtout pas avec cette cour-là qui l'entoure. Mais pour l'instant, Marie est dans sa maison et elle est étonnée. Elle croit, mais elle a besoin d'explications et elle les demande à l'ange. Elle lui dit, « Comment cela se fera, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange lui explique tout le mystère de l'incarnation. « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ceci au verset 35 de Luc 1. Après cette explication et l'annonce de la grossesse d'Élisabeth, sa parente, Marie n'a plus rien à rajouter. Elle accepte. Elle ne se demande plus rien. Elle aurait pu dire « Oui, mais et Joseph ? Oui, mais et mes projets ? Oui, mais et ma propre vie ? Oui, mais et moi, je ne compte pas dans cette histoire ?» Elle s'incline dans une grande humilité et répond « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et alors que Joseph et Marie ne sont pas encore mariés, voici que Marie est enceinte comme l'ange le lui a annoncé. Matthieu 1, 18 dit « Voici de quelle manière arrive la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. » La situation est grave. Nous ne sommes pas en 2016. Marie, enceinte avant le mariage, doit être lapidée. Et Joseph, de son côté, se sent trahi. Si Marie est un exemple de foi et de service, Joseph est l'exemple de noblesse et de dignité et d'amour. Joseph est juste. Il ne peut endosser la responsabilité qui ne lui incombe pas, mais il ne veut pas non plus faire du mal à Marie. Sans faire d'histoire, il veut rompre ses fiançailles en secret. C'est dans cette situation critique que l'ange du Seigneur apparaît à Joseph et lui explique le plan du Seigneur. Marie a tout juste 14 ans. Elle n'est pas mariée. Elle est enceinte. Est-ce que cet enfant est un enfant illégitime ? Peut-être un enfant occupant d'un occupant romain ? Peut-être un enfant adultérin ? Ces rumeurs n'ont jamais cessé. 30 ans après, lorsque Jésus prêche, les hommes n'hésitent pas à lui rappeler ce scandale. « Nous, leur dit-il, nous sommes des enfants légitimes, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. » Autrement dit, « Toi, tu l'es. Nous, nous avons un seul père, Dieu. » Autrement dit, « Pas toi. » Mais pour le moment, Marie est enceinte, presque à terme, en route vers Bethléem. Elle parcourt environ 130 kilomètres à dos d'âne pour le recensement qu'impose l'empereur Auguste. Vous savez, au musée de Bruxelles, il y a un tableau d'un peintre flamand qui s'appelle Pieter Bruegel. Ce tableau représente un paysage d'hiver. Il y a des maisons enneigées, ça et là. Et puis, devant l'une de ces maisons, des gens semblent attendre leur tour pour entrer, pour y rentrer. Et puis autour de ces maisons, il y a une plaine, elle aussi enneigée, et des gens sont très affairés. Des enfants jouent. Il y a vraiment un véritable trafic. Et ce panneau pourrait avoir une grandeur de la porte jusqu'au vitrail. Il est immense, ce tableau. Et si on n'y prête pas attention, on risque de passer à côté d'une scène attendrissante. Un peu au bas du tableau, pas loin de la maison occupée, on voit un homme marchant à côté d'un âne monté d'une femme vêtue de bleu. Si le peintre n'avait pas intitulé son œuvre « Dénombrement à Bethléem », nombreux des visiteurs passeraient sans voir Marie et Joseph. Parce que pour les voir, je vous assure qu'il faut savoir qu'ils sont là et il faut les chercher du regard. Ce tableau est vraiment bien fait pour illustrer ce qui suit. Une nuit, à Bethléem, un homme, une femme sont passés. Les gens, trop affairés, ne les ont pas remarqués. Les hôtels, trop encombrés, ne les ont pas accueillis. Personne n'a vu que le roi des rois faisait son entrée sur la terre pour sauver l'humanité. Personne. L'histoire de Marie se poursuit. La naissance de Jésus, la visite des bergers et des rois mages avec leurs précieux cadeaux. Jour de la présentation de Jésus dans le temple, Siméon, cet homme juste et pieux, rempli du Saint-Esprit, reçoit le petit enfant dans ses bras. Il bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Il se trouve que il se tourne vers Marie et lui dit « Marie, voici cet enfant qui est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Au pied de la croix, son âme a été transpercée. Lorsqu'on prend le temps d'étudier la vie de Marie, on peut vraiment assurer que l'anagramme de Marie est aimée. Aimée par l'engagement, aimée par l'humilité, aimée par le service, aimée par la fidélité. Et c'est ce dont notre monde, notre société aujourd'hui a besoin. Voir cet amour en action, voir cet amour en marche. Amen.